Évidemment, ça, c'est des extraits audio d'une séquence à l'attaque des Blue Jackets de Columbus avec Matt Duchene et les joueurs des Blue Jackets. Évidemment que la préparation d'avant-match de Pierre-Luc Dubois a fait jaser au dernier match. Pierre-Luc Dubois dans le corridor menant, en fait, qui sépare le vestiaire de la patinoire. Pierre-Luc Dubois est allé de quelques sacres.
Here was 107. Oh, that's good. Pierre-Luc Dubois.
Il y a à peu près... Ça, c'est Ron McLean qui réagit. Oh, that's good, Pierre-Luc Dubois. Il y a à peu près juste David Savard qui pouvait comprendre ce que Pierre-Luc Dubois disait. Et sincèrement, je pense qu'on est parti en peur pour rien. Là. C'était pas si grave que ça. Puis je pense pas qu'il faut remettre en question l'éducation des parents de Pierre-Luc Dubois. On va s'en aller à Columbus pour parler avec le journaliste pour LNH.com, Robert Laflamme, qui est au téléphone, qui suit cette série-là pour le compte d'LNH.com. Salut, Robert!
Oui, salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi.
Oui, Will me racontait hier que tu es un des premiers, sinon le premier, qui a appris à Pierre-Luc Dubois qu'on avait capté à la télévision ses sacres d'avant-match.
Oui, c'est ça. Il ne savait pas... En fait, lui, il se disait, bon, si on entend ça, des télédiffuseurs ne publieront pas, vont tenir ça secret parce que c'est pas des bons mots. Mais je pense que du côté anglophone, on n'a pas trop compris.
Ouais, fait que vu qu'on comprenait pas, on l'a diffusé.
C'est ça.
C'est bon. Est-ce que...
J'ai parlé à son père, d'ailleurs, hier, là-dessus, c'est en ligne, là. Et puis, bon, il disait... Pierre-Luc n'est pas comme ça dans la vraie vie, là. Rassurez-vous. Et puis, il a fait ça pour le fun avant le premier match contre Tampa au premier tour. Et puis, c'est les joueurs anglophones ont trouvé ça bien drôle. Évidemment, quand les francophones, quand les Québécois sacrent avec les joueurs anglophones, on sait l'effet que ça a. Et puis, bon, comme les Blue Jackets ont gagné le premier match contre Tampa, ben, la tradition s'est perpétuée.
C'est comme devenir un porte-bonheur.
Il va le faire encore ce soir avant.
C'est comme devenir un porte-bonheur.
Faut pas virer fou avec ça.
Il va le faire encore. Penses-tu que les Blue Jackets vont demander aux caméras de ne pas être là?
Non. Ah ben oui, là, j'imagine que... Puis je pense que du côté des diffuseurs aussi, là, on va faire preuve de meilleur jugement. Là.
OK.
Ouais.
J'ai adoré ton texte avec Éric Dubois. Juste pour rappeler aux auditeurs à l'écoute ce soir de mon émission, il a été jusqu'à tout récemment entraîneur adjoint avec l'Océanique et Serge Beausoleil. Il a déjà été entraîneur-chef au hockey junior. Il est maintenant l'adjoint de Pascal Vincent avec le Moose du Manitoba. C'était excellent ton texte. Puis j'ai bien aimé le bout. Peut-être que tu peux mieux nous l'expliquer, là. Le bout où Éric Dubois te raconte qu'il a été coéquipier du père d'Alexandre Texier, le Français qui joue avec Columbus, et maintenant... Pierre-Luc et Alexandre sont non seulement coéquipiers, mais co-chambreurs également.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est en 86-87 chez le Titan de Laval. Et débarqué deux Français, deux défenseurs, dont un qui s'appelait Fabrice Texier. Ils ne sont pas restés longtemps. C'est pour ça que le père de Pierre-Luc, Éric, a de vagues souvenirs de leur passage. Il se rappelait que des Français étaient venus... jouait avec le Titan quelque peu, mais Fabrice Texier n'a joué que 4 matchs avec le Titan, et puis l'autre Français, un dénommé Philippin, a joué 9 matchs. Et puis Éric Dubois me disait, je sais pas pourquoi ils sont partis, puis c'est un peu vague, mais c'est quand même curieux que le destin veuille que 32 ans plus tard, les deux fils se retrouvent dans la même équipe, ils sont co-chambreurs sur la route. Ouais.
Le père de Pierre-Luc Dubois est un homme de hockey. Est-ce que tu sens qu'il prend plaisir à seulement être un père pour cette série-ci?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis il me disait, là, je vis pas par procuration, parce que ça a été un ancien joueur aussi. Il n'a pas connu une grande carrière professionnelle. Il a surtout joué en Europe et tout ça. Mais il dit, je vis pas par procuration les succès de Pierre-Luc. Au contraire, je suis content. On vit de belles émotions en famille. Il est avec son épouse, Jill. Et puis... il manque que la sœur de Pierre-Luc là, qui est demeurée au Québec, mais il apprécie vraiment. Je pense que c'est ça, parce que tout le reste de la saison, il est accaparé par ses tâches d'adjoint à l'entraîneur Pascal Vincent avec le Moose du Manitoba. Alors là, il en profite pleinement.
OK, puis tu parlais d'Éric Dubois. Will a fait des petites recherches pendant qu'on se parlait, puis c'est un ancien choix de quatrième ronde des Nordiques.
Oui, ah oui, c'est vrai. Mm-hmm. Tout à fait. Je serais curieux de savoir ce qu'il a joué dans la Ligue nationale ou quelques matchs,
non,
peut-être seulement.
Non, il n'a pas joué. Non, ça. Exact.
Il n'a jamais joué, mais c'est ça. Il a connu une belle carrière en Europe, puis il s'est promené beaucoup. Et puis maintenant, continue de vivre du hockey comme entraîneur.
Oui, Robert, Pierre-Luc Dubois, c'est devenu, sans dire un joueur clé, c'est devenu un des membres importants de l'attaque des Blue Jackets.
Ah oui, tout à fait. Puis ce jeune homme-là n'a que 20 ans, hein, qu'il faut se le rappeler. Chouette de premier rond des Blue Jackets, troisième au total en 2016. C'était sa deuxième saison, cette saison. Et puis, il a super bien fait, compte tenu que souvent la deuxième saison est plus difficile. Son père me disait qu'après les fêtes, ça a été effectivement le cas. Avant les acquisitions de Duchesne et de Zingle, ça a commencé à moins bien aller un peu pour lui, mais il a réussi quand même à s'en sortir comme un jeune de 20 ans peut le faire. Puis bon, je pense que on dit que l'avenir des Blue Jackets est peut-être nébuleux à cause du statut de Panarin et de Duchesne et tout ça.
Oui.
Mais quand on regarde un joueur comme Pierre-Luc Dubois qui s'en vient, je pense qu'on a raison d'être optimiste quand même. Là.
Absolument. Dans le dernier match qui a fait jaser au-delà de la victoire de 2-1 des Blue Jackets, c'est évidemment ce coup salaud de Brad Marchand. Toi, tu es sur place. Comment les joueurs ou l'organisation des Blue Jackets réagit à ça? J'imagine, à distance, évidemment, tu me diras si je me trompe, j'imagine qu'on fait comme si de rien n'était puis on veut pas embarquer dans le panneau.
Ah, tout à fait. Les Blue Jackets se comportent cette année exactement comme les Golden Knights le faisaient l'an dernier. Tu sais, il n'y a rien qui les affecte, rien qui les... Ils ne veulent rien savoir. Ils font ce qu'ils ont à faire sur la patinoire. Puis ça énerve beaucoup les autres équipes. On l'a vu, le Lightning est devenu frustré rapidement avec le résultat qu'on connaît. Et là, les Bruins de Boston sont en train de tomber dans le même panneau. Alors, j'ai hâte de voir le match ce soir parce que ça va nous en dire long sur la suite des choses. Si les Blue Jackets devaient l'emporter de nouveau, moi, je donne pas cher de la peau des Bruins, même si je les ai choisis pour l'emporter en sept matchs. Mais de la façon, je me disais avant le début de ce deuxième tour que les Blue Jackets me faisaient penser aux Golden Knights, mais j'avais de la difficulté encore à les choisir pour poursuivre en série ou pour être l'équipe Cendrillon. Mais là, après trois matchs de cette série-là, là, je dois admettre que je pense que faudra voir ce soir. Si les Bruins parviennent à créer l'égalité 2-2, on va avoir une très longue série, donc il va possiblement aller en 7. Mais si les Blue Jackets l'emportent, je pense qu'il faudra vraiment leur accoler l'étiquette d'équipe Cendrillon. Ils font subir aux Bruins un peu ce que le sort que les Hurricanes font subir aux Islanders dans l'autre demi-finale d'association. Ce sont des équipes non seulement très coriaces et très difficiles à affronter, mais très, très frustrantes également.
Robert, absolument. Robert, est-ce que, comme le disait Sakou Koivu, est-ce que la ville de Columbus est hockey?
Ça commence de plus en plus. On sent là, la fièvre monter. Évidemment, cette équipe-là n'avait pas eu de succès en série dans toute son histoire. Là, on a gagné une ronde et puis les gens embarquent là, vraiment dans le train des Blue Jackets. Et puis, si cette équipe-là devait se qualifier pour la finale d'association, je pense que oui, on pourrait parler d'une fièvre de hockey à Columbus. Là.
Tantôt, tu disais les Blue Jackets sont en parfait contrôle, sont comme les Golden Knights l'année dernière. Est-ce que Boston est un peu en panique?
Oui, la frustration de Marchand dénote ça. Je pense qu'on espère également que Bobrovsky va finir par flancher. Donc, tu sais, on est un peu dans des souhaits. Là. On veut... Là, dit, ils travaillent fort, les Bruins, puis ils auraient pu remporter le match numéro 3 avec un peu plus de chance. Mais bon, quand une équipe est bénie du dieu du hockey, ça donne ce que ça donne, et les Blue Jackets s'en profitent dans le moment. Alors, forcément, quand les joueurs vedettes d'une équipe n'arrivent pas là à se mettre en marche, il y a de la frustration qui s'installe, puis c'est le cas chez les Bruins, effectivement.
Seulement deux coups de canon au dernier match. On t'en souhaite 7 ou 8 ce soir, Robert.
À toutes les fois, je me fais prendre. Non, j'en espère un peu moins quand même. Mais j'ai mon voisin à côté sur la galerie de presse qui voit à m'avertir à chaque fois que je m'y attends pas.
Est-ce que c'est sincèrement désagréable?
C'est très fort, c'est très fort. Et puis, si on a un moment, là, qu'on est dans notre bulle, on travaille un peu sur notre ordinateur, puis qu'on n'y pense pas, comme le coup d'avant-match, souvent, on y pense moins parce que c'est pas un but, on travaille, puis celui-là, il saisit toujours un peu plus que les autres.
Est-ce que si t'étais dans l'équipe adverse, tu serais intimidé par ce coup de canon-là?
Non, je pense pas. Je pense pas que c'est le cas. Patrice Bergeron nous disait ce matin que, oui, il règne une bonne atmosphère au Nationwide Arena, mais c'est pas plus qu'ailleurs. C'est comme dans toutes les villes qui accueillent des matchs de la Coupe Stanley. Et puis, que comme joueur, ben c'est rien de différent. On veut faire taire la foule. On veut se nourrir de cette énergie-là pour essayer de faire mal paraître l'autre équipe. Alors, non, les coups de canon, les joueurs en parlent de façon amusée, là, parce que la première fois qu'ils jouent à Columbus, et s'ils ne sont pas au courant, comme Pasternak disait que Claude Julien lui avait dit avant son premier match à Columbus, fais attention au canon, puis il ne comprenait pas. Puis quand les Blue Jackets sont inscrits le premier but du match, il a compris là, qu'est-ce que Claude Julien voulait lui dire.
Quand tu jases avec les gens à l'hôtel, chauffeur de taxi, peu importe qui vit à Columbus, est-ce que les gens sont comme dans un conte de fées où ils réalisent que finalement les Blue Jackets, c'est pas une si mauvaise équipe que ça, puis ils ont peut-être des chances de faire un bon bout?
Oui, les gens le réalisent. Les gens sont assez conscients de ce qui se passe. Les Blue Jackets ont fait une bonne promotion. Ça explique un peu pourquoi je pense que Kalainen, le directeur général, est allé le tout pour le tout à la date limite des transactions. C'est si vous achetez un mini billet de saison pour la saison prochaine ou un forfait, on vous donne une paire de billets pour assister à un match des séries. Alors, comme la fièvre est en train de gagner la ville, il y a des amateurs des nouveaux amateurs, des amateurs assez récents qui embarquent là-dedans et puis qui vont acheter un forfait pour la saison prochaine. En profitant tout de suite d'une paire de billets pour les séries cette année. Alors, je trouve ça ingénieux. Et puis, je pense que les Blue Jackets étaient rendus à cette étape-là, voilà, de vouloir, ou en tout cas, de vouloir agrandir leur cercle de partisans en ville et dans la région. Et pour ce faire, je pense que l'équipe devait poser des gestes importants. Puis c'est ce qu'elle a fait à la date limite des échanges. Et ça rapporte maintenant.
Est-ce que le slogan Go It's Time est visible partout en ville?
Oui, même sur un gros édifice ici, pas loin de l'aréna. Okay. Le soir, c'est illuminé et puis il y a des banderoles partout. Alors, de plus en plus, ça a poussé depuis le premier tour, je peux en témoigner. J'étais ici lors de la série contre Tampa et puis on sent que, oui, c'est ça, les gens de plus en plus sont fébriles.
Robert, sur une échelle de 1 à 10, Columbus, c'est une belle ville à 6?
Ouais, je dirais même 7.
Ah oui?
Franchement, c'est une ville que je découvre dans les dernières semaines. Des espaces verts, de bons restaurants, une ville universitaire. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est en haut de Raleigh et de quelques autres destinations, c'est sûr, à travers la Ligue nationale. Là.
Parfait.
C'est une belle découverte à faire. Ici.
Une belle découverte. OK. Un gros merci de nous avoir parlé. Très apprécié.
Pas de problème. Merci, Dan. Au revoir.
Salut, Robert. Robert Laflamme, journaliste d'expérience qui travaille maintenant pour LNH.com. Il est à Columbus pour le match numéro 4 ce soir entre les Bruins et les Blue Jackets.